Bientôt commenceront dans la plaine d'Écaille, pardon, de Cavaillon, les travaux de construction d'une usine de pâte de tomates. Dans le passé, plusieurs tentatives de ce genre ont eu lieu avec plus ou moins de succès et plus ou moins d'ampleur. Nous consommons environ 80 000 caisses de 48 boîtes de 8 onces de pâte de tomates par an, ce qui représente une importante sortie de devises. D'autre part, notre sol agricole peut produire, comme en République dominicaine, une tomate parfaitement convenable à la fabrication de pâtes, de concentrés ou de sauces. Comme chez nos voisins, l'idée de traiter sur place le légume pour usinage et mise en conserve est venue à un groupe de promoteurs qui ont décidé de monter cette affaire dans la région d'Aquin-Cavaillon. À notre micro aujourd'hui, trois des membres de cette société commerciale et industrielle, M. Fédère Guillaume, M. l'ingénieur Marcel Kiki Villard-Fils et M. Clifford Brandt. Pour ce dernier, il ne s'agit pas seulement de tomates, mais d'une conserverie de plus grande envergure.
L'usine doit pouvoir traiter tous les légumes, tous les pois, pois Congo, pois rouge, aussi le calalou et les jus de pamplemousse, jus de mango, jus de goyave. En général, tous les fruits, généralement quelconques, que notre secteur de la promotion agricole pourra nous suggérer.
Mais il est important, avant plus de détails, d'envisager la genèse de leur projet pour juger de son ambition, M. Brandt.
Bien, M. Dominique, au début, quand Kiki, Fédère et moi, nous faisions notre tournée dans le sud, il était pour nous question de monter une petite usine de 80 à 100 000 caisses de pâte de tomate. Cependant, nous avons eu à engager M. Walt Patton, qui a eu plus de 35 ans avec la Campbell Soup Company. Et M. Patton avait pris comme aide l'ingénieur agronome Georges Condé de Caille. Et le rapport que nous a présenté ces messieurs après un mois d'études de toute la région a porté le groupe à changer d'opinion. À savoir, il fallait voir beaucoup plus grand que nous avions au début anticipé. C'est ainsi que l'usine actuellement pour laquelle nous avons une cotation doit pouvoir faire environ 200 000 caisses de pâte de tomate, 2 à 300 000 caisses de pois de diverses qualités, sans compter le calalou et les jus de mango, de
pamplemousse.
Projet de rentabilité, certes, rentabilité, factibilité garantie, mais fondamentalement, souci, disons le pionnier, des investisseurs, d'explorer les possibilités de l'arrière-pays agricole et de s'y implanter. En l'occurrence, Cavaillon, Aquin. Mais pourquoi?
Notre groupe pense que la décentralisation de Port-au-Prince est une chose qui is a must. Nous devons penser aussi à l'arrière-pays. Nous avions au début pensé à installer l'usine au CAI. Cependant, au début de cette année, nous avons su que le gouvernement de son excellence avait passé des instructions afin que la plaine de Cavaillon, ou plutôt le canal d'irrigation de Dory, soit reprise. Et en réunion, nous avons discuté de cette nouvelle orientation et avons décidé, pour faire suite à ce canal d'irrigation, enfin
le système
d'irrigation de la région de Cavaillon, ce serait tout indiqué que nous donnions immédiatement une plus-value à la plaine de Cavaillon en installant notre usine au centre même de cette plaine.
Venons-en à présent à l'investissement. Quel est l'ordre de grandeur d'une pareille entreprise? Quelle mise de fonds suppose-t-elle de la part des entrepreneurs? Nous soupçonnons que le capital privé haïtien a dû s'allier à des investisseurs étrangers. Lesquels? Mais auparavant, Clifford Brandt évalue pour nous l'importance, disons, chiffrée de ce projet.
L'équipement, l'ingénieur Villard, je crois, pourrait m'aider là, je crois, l'équipement... Pas je crois, l'équipement, les machineries seulement, nous coûterons environ 600 à 700 000 $. Les buildings, qui a prévu trois buildings préfabriqués, il parle de 125 000 $. Il nous faut des tracteurs, il nous faut des camions, il faut installer, il faut monter cette usine. Je crois que nous allons arriver facilement au $1 million pour usine proprement dit.
Pour les immeubles.
Pour les immeubles.
Immeubles et équipements.
Les machineries.
Alors, ce $1 million, donc, investi, mais cela ne limite pas à un investissement aussi sur d'autres postes. Par exemple, nous y viendrons tout à l'heure, en éléments permettant aux paysans de planter lui-même. Mais alors, ce $1 million, est-il le produit de la contribution des membres de la société? Et comment cela va-t-il fonctionner?
Bon, nous avons pris des contacts avec certains organismes internationaux. D'ailleurs, la IFC, International Finance Corporation, qui est un prolongement de la World Bank, nous a visité et a montré un intérêt particulier sur ce projet, au point où ils nous ont officiellement dit qu'ils seraient intéressés à nous financer jusqu'à concurrence de $500 000. À savoir, ils prendraient 10% des actions, ce qui veut dire $50 000, et ils nous avanceraient $450 000 à moyen terme, c'est-à-dire 7 ans, peut-être 10 ans. Taux d'intérêt à discuter. Donc, nous avons d'un côté, nous allons faire de l'histoire, à savoir que c'est pour la première fois que la IFC, la International Finance Corporation, va venir participer dans un programme de développement économique en Haïti. Et ceci, nous sommes très heureux et très fiers.
Un programme de développement économique du secteur privé, c'est très important,
oui,
je crois.
Du secteur privé, je m'excuse, oui. Cette précision est nécessaire. Et nous espérons qu'elle s'intéressera à d'autres projets similaires qui viendront s'établir en Haïti du côté du secteur privé, comme vous
dites. Si je comprends bien, M. Brandt, la Banque mondiale, par l'entremise de l'une de ses branches, la IFC, International Finance Corporation, va utiliser ce projet comme un projet pilote pour une éventuelle aide subséquente au secteur privé haïtien. C'est bien ce que je comprends.
Je crois que c'est exactement là leur intention.
Dans d'autres pays que le nôtre, nous le savons, les agences internationales de financement soutiennent et ont soutenu le secteur privé. Nous apprenons avec un certain intérêt que la Banque mondiale a décidé de coopérer au développement économique en alimentant chez nous ce secteur. Mais pour en revenir à la pâte de tomate, il semble qu'il y ait en Haïti aujourd'hui de la place pour tout le monde. Il semble aussi que d'autres entreprises comptent se lancer dorénavant dans la conserverie.
Ce matin, le président de la Chambre, M. Raymond Roy, m'a arrêté dans la rue pour me montrer. Il vient de rentrer de France avec un plan, n'est-ce pas, pour une usine similaire qu'il compte établir dans le département du Nord. Il m'a même cité le Cap. J'ai été très heureux d'entendre cela. D'ailleurs, le pays a besoin de 2 ou 3 autres usines similaires.
Il s'agit à présent de savoir comment va fonctionner cette affaire. Sa structure, ses rapports avec les bailleurs de fonds, ses relations avec les producteurs, car il y en a, et comment, disons le mot, cette entreprise agro-industrielle s'intégrera dans le paysage du département du Sud. Mais à la base, c'est une société commerciale, une société anonyme au capital de $500 000, et dont les actions ont été déjà placées, si j'en crois les journaux, M. Brandt.
Il y a eu une petite erreur dans les journaux. Toutes les actions ne sont pas vendues. Nous avons, le groupe a réservé 20 ou 25%, je ne me rappelle pas le chiffre exact, des actions qui seront offertes aux aux membres de la localité là où nous allons installer, c'est-à-dire les notables et les coopératives de Caille, d'Aquin et de Cavaillon auront la facilité. Et nous allons même les pousser, nous allons demander aux coopératives avec qui nous allons tenir une étroite collaboration de participer au capital de la société. C'est la meilleure façon pour nous d'acheter du goodwill à bon marché et d'intéresser les gens de la région au développement économique de leur pays.
Et donc d'intégrer le projet dans un paysage humain, si je comprends bien, n'est-ce pas? Oui.
Toute entreprise, tout complexe agro-industriel doit, nous le savons, assurer sa production. Il y a deux possibilités, produire directement la matière première ou l'acheter du producteur, c'est-à-dire du paysan. Nous allons demander à M. Fédère Guillaume, qui est un commerçant bien connu de nos acheteurs des faubourgs et qui se lance dans l'industrie à présent, nous allons lui demander quelle est la politique suivie par cette société.
Est-ce que Facolef compte acheter des terres dans la région de Cavaillon?
Oui, non, il n'est pas question pour nous d'exploiter les terres des paysans. L'usine aura besoin de 50 carrés de terre pour lui servir, qui peut nous servir de pépinière. L'usine aura besoin en moyenne 300 hectares de terre pour la production de pâtes de tomates, pour la plantation de tomates, de pois congo, de pois rouges et d'autres légumes. Par exemple, ces 50 points qui nous servent de pépinière, nous comptons donner des semences aux paysans, nous comptons les aider en leur donnant des semences, de l'engrais et un bon environnement, par exemple technique, tel que des charrues, tracteurs et des ingénieurs agronomes pour les aider à planter et les apprendre à cultiver leur terre.
Ah, c'est très important. Voilà. Donc, si je comprends bien, M. Guillaume, vous allez avoir 50 hectares de terre pour pépinières et expérimentation, mais qui ne seront pas des terres productives. Et le reste, la production reposera directement sur les épaules du paysan. Le paysan sera propriétaire de sa terre, il va planter, récolter et vendre à l'usine. C'est bien la formule que vous utilisez. Ce n'est pas la formule de l'exploitation directe.
Directement.
Ah, bien.
Encadrement technique, cela signifie faire appel aux talents et aux connaissances d'agronomes, M. Brandt.
Nous allons avoir embauché deux agronomes d'ici le mois de septembre pour les envoyer en République dominicaine passer 6 mois. On commence à planter la tomate en octobre, novembre, décembre et on récolte en janvier, février, mars. Donc ces agronomes devront aller apprendre chez nos voisins la technique de la plantation
l'utilisation des engrais, des insecticides
et tout ce qu'il faut pour la
récolte. Ouais. Revenons à cette aide aux paysans. Vous lui avancez le travail du tracteur, vous lui avancez les semences, les engrais, éventuellement, parce que la tomate se cultive sous engrais, si ma mémoire est bonne, les insecticides, parce qu'il y a la puce, etc. Et vous lui achetez sa tomate.
Oui, effectivement.
Il y aura donc une comptabilité entre paysans, producteurs et usines. Une avance avant la récolte, avant les plantations, et à la récolte, un petit règlement. Est-ce que votre entreprise qui est commerciale a prévu un taux d'intérêt sur cette avance?
Non, il n'est pas question d'intérêt.
Absolument
pas
question.
Absolument pas d'intérêt. Les usines faisons, nous tirons par exemple ce que nous donnons comme avance, par exemple les engrais, les insecticides et autres. Uniquement prendre la valeur de ce que nous avons.
Ah oui, mais attention, M. Guillaume, vous allez avancer, si ma mémoire est bonne, comme agronome, un petit calcul rapide, environ 400 à 500 gourdes par hectare à un paysan pendant 3 mois, ça représente quand même. Parce que si le paysan devait aller prendre un petit coup de poignard au caille, ces 500 gourdes, il les paierait 600 ou 700, au minimum. Donc, pas question d'intérêt, malgré tout.
Pas question d'intérêt pour les gens, malgré tout. Donc, voilà, c'est ce que l'autre but, c'est l'idée. Ça donne faire tout notre possible pour aider les paysans à exploiter leur terre.
La construction de l'usine a été confiée à l'ingénieur Marcel Villard, fils dit Kiki Villard. Quel problème pose cette construction dans la région de Cavaillon?
La localisation exacte de l'usine n'est pas encore entièrement établie, mais alors de toute façon, elle sera à proximité de la rivière de Cavaillon, parce que c'est une usine qui réclame beaucoup d'eau. Elle sera, comme l'a dit tout à l'heure M. Brandt, constitué de 3 immeubles principaux. Le plus petit immeuble sera approximativement de 20 000 pieds carrés. Nous aurons, bien entendu, n'est-ce pas, étant placés dans l'arrière-pays, nous sommes obligés de prévoir toutes nos facilités, c'est-à-dire que nous serons obligés de produire notre propre électricité, nos propres pompes seront établies par nous, le système d'irrigation nous servira pour l'exploitation, surtout pour notre pépinière et nos champs d'expérimentation. Mais alors, nous sommes obligés, placés là où nous allons être, surtout, n'est-ce pas, de prévoir tout et ce qui implique effectivement, n'est-ce pas, un investissement extrêmement important.
Mais si je comprends bien, vous allez avoir votre propre usine électrique parce que cette usine fonctionne à l'électricité. Est-ce un avantage ou un inconvénient d'avoir sa propre usine électrique en ce moment, M. Villard?
Définitivement, placé à Cavaillon, c'est un inconvénient parce que placé à Port-au-Prince, les frais d'électricité seraient sans nul doute de 50% meilleur marché qu'à Cavaillon. Mais alors, le groupe a pensé, n'est-ce pas, à nous décentraliser et d'éviter, on peut dire, n'est-ce pas, la République de Port-au-Prince. On est bien obligé, n'est-ce pas, de partir de ces données qui sont effectivement extrêmement lourdes. Le kilowatt produit par nos groupes reviendra sans nul doute à deux fois la valeur, n'est-ce pas, de ce que nous aurions payé à la réserve de Port-au-Prince.
Infrastructure, donc, problème résolu. Mais un autre problème se pose, car, comme je l'ai dit, ce complexe agro-industriel dépend d'une base de production agricole. Il s'agit à présent de savoir comment les promoteurs de ce projet de conserverie s'y prendront pour motiver le paysan et le décider à produire pour alimenter l'usine.
Il y a deux facteurs de promotion sociale très importants dans la région. Vous avez d'une part les protestants, Radio Lumière, et d'autre part le clergé catholique. Ces deux institutions ont, entre les deux, ils ont sous leur contrôle environ une quinzaine de coopératives. Et j'ai déjà pris contact avec le secteur catholique et le secteur protestant. Le secteur protestant attend avec impatience les ouvertures des travaux pour qu'ils puissent mettre à la disposition de notre département technique le Radio Lumière, afin d'instruire aussi l'habitant, tant par la radio que nos propres ingénieurs agronomes feront directement sur le champ. Ils nous ont promis de nous donner l'heure qu'il nous faudra, n'est-ce pas, Radio Lumière, pour pouvoir instruire l'habitant, quand planter, comment planter, quel insecticide utiliser à quelle époque, quel engrais, et même comment cueillir et quand cueillir et ce qu'il faut cueillir.
Le mouvement communautaire et les sociétés coopératives auront donc un rôle à jouer dans cette organisation pour la motivation psychologique du paysan. Mais elles joueront aussi, les coopératives, un rôle de lien commercial, si je peux employer cette expression, entre l'usine et le producteur.
Nous allons, et comme vous pensez bien, M. Mick, il est difficile pour nous d'aller faire des emprunts à 3 ou 4 000 habitants. Non. Nous allons pousser à outrance les coopératives. Et là où il n'y en a pas, et là où nous voyons que dans la communauté, on peut avoir des plantations des légumes que nous désirons promouvoir, nous allons demander au secteur économique de notre industrie de promouvoir des coopératives, de former des coopératives. Et c'est surtout à ces coopératives que nous allons nous adresser pour leur offrir, comme disait Federme, les engrais, la semence, les engrais, les tracteurs et les fonds s'il le faut pour un cerclage
avant la récolte.
Notre tour d'horizon est, j'espère, complet sur la fabrique de conserverie des légumes et des fruits qui va bientôt commencer ses travaux. Bientôt, justement, cela veut dire quand?
Nous avons déposé nos papiers et je crois que maître le notaire Avin prépare les statuts et tout ce qu'il faut pour que nous ayons ce qu'on appelle le green light le plus tôt possible. Nous sommes très anxieux de commencer.
Très anxieux de commencer, mais en attendant ce green light, qui signifie quoi ce green light? Une autorisation de fonctionnement?
Oui, une autorisation de fonctionnement d'une part, mais comme vous disait l'ingénieur Villa, Kiki, nous sortons de la République de Port-au-Prince. Nous allons nous installer à Cavaillon avec son cortège de problèmes, car il y en aura. La route, heureusement, sera faite d'ici 2 ans, mais les routes de pénétration seront à notre charge. Le fait de s'installer à 4h30 de Port-au-Prince est encore un handicap, qui doit aller au moins 2 fois la semaine s'enfiler 4h30 de route. Moi aussi, quand il ne sera pas là, M. Fédem Guillaume aussi. Et nous estimons, nous pensons que tout groupement qui essaye de décentraliser, comme c'est notre désir de le faire, nous devrions aussi recevoir un encouragement spécial. Et nous ne savons pas exactement, nous savons ce que nous allons demander au département des finances. J'espère que le ministre Brault nous donnera tout le concours nécessaire pour nous encourager, et non seulement nous, mais tout autre groupement qui, comme nous, voudrait monter une industrie similaire et dans les provinces et pas à Port-au-Prince.
Encouragement, M. Brandt, comprenons bien. N'y a-t-il pas déjà des prescriptions administratives qui vous permettent, en tant qu'industrie nouvelle, de bénéficier d'une certaine franchise?
Oui, ceci existe déjà, mais...
Ce n'est pas automatique.
Oui, c'est automatique. Mais cependant, là où nous voulons faire la différence entre notre industrie nouvelle et l'industrie nouvelle qui va s'installer là à Damien, par exemple, et à 5 minutes de Port-au-Prince, nous allons à Cavaillon. Nous allons à l'intérieur du pays. Nous sommes comme les autres, nous voyons tous les avantages qu'il y a à nous installer là dans la plaine du cul-de-sac.
Mais malgré ces avantages, vous pensez qu'il est préférable?
Il le faut, oui? Il le faut. Le pays ne peut pas rester dans la République de Port-au-Prince. Il nous faut aller ailleurs. Et c'est ainsi que, d'un commun accord, tout le monde, tous les actionnaires de base de FACOLEF ont unanimement voté d'aller à Cavaillon. Et nous sommes tous très contents, très heureux, et c'est faisant nous-mêmes un effort, nous espérons recevoir une réciprocité en nous que le département des finances nous donne un statut un peu spécial qui ne soit pas comme le statut de tous les nouveaux venus qui s'installent à Port-au-Prince.
Décentralisation industrielle, certes, mais n'y a-t-il pas autre chose, ingénieur Villard?
Bon, bien sûr, tout le fait que, en nous implantant là-bas, la région a toujours produit des denrées, principalement la canne à sucre, n'est-ce pas? Et nous arrivons à une diversification qui est en même temps, n'est-ce pas, un apport important pour cette
communauté.
Pour cette communauté.
Bientôt donc, dans la plaine de Cavaillon, une conserverie, usine de pâtes de tomates, conserverie de légumes, fabrication de jus de fruits, capital 500 000 dollars, investissement 1 million de dollars, voilà qui promet de beaux jours pour les Cavaillonnais. Au micro d'Haïti Inter, 3 des promoteurs de ce projet, le commerçant Fédère Guillaume, l'ingénieur Marcel Villard-Fils et M. Clifford Brandt.